si vous voulez penser avec moi pour un moment, la parole et la croix, ça veut dire toute parole de Dieu et la croix quotidienne sont synonymes. Imaginez ça très attentivement. Disons ce soir que je suis allée évangéliser, mais je n'étais pas motivée par l'amour du calvaire. Je ne me suis pas identifiée avec ceux qui sont dans le besoin que j'ai rencontré. Mais ma motivation ne serait pas, ne correspondrait pas à la parole de Dieu. La parole et la croix, quand elles sont comprises dans l'esprit, sont inséparables. Quand on en vient au mariage, on vient de terminer notre livre aujourd'hui sur le mariage. Quand on vient au mariage, la parole et la croix sont inséparables. Quand on parle de la famille, la parole et la croix sont inséparables. Quand on parle d'une équipe pionnière, c'est sûr que la parole et la croix sont inséparables. Quand on parle de l'amitié, la même chose est vraie. La parole et la croix sont inséparables. C'est la croix qui transfère la parole par l'esprit dans la vie, dans la puissance de résurrection. Elles sont inséparables. Alors, remarquez ceci soigneusement. Ce soir, si je vis dans la chair, en tant que prédicateur, pour une heure aujourd'hui, je suis un ennemi de la croix. Ma chair, c'est un ennemi de Dieu. On ne pose pas de questions quand la parole de Dieu dit mes émotions se brûlaient et ne sont pas reposées. Dans Lamentations 1:20, j'étais dans une détresse et mes émotions étaient très troublées, mes émotions. Et comme nous considérons Lamentations 1:20, et nous considérons ce que la parole de Dieu a à dire au sujet des émotions. La chose qui détruit les chrétiens très sincères, qui ne font pas de recherche spirituelle avec la parole et l'esprit, la chose qui fait une vie tellement importante et qui a une valeur vraiment très importante, c'est quand, comme jamais avant, j'aime la croix où il est mort pour moi, j'aime la croix où je suis crucifié avec lui et je l'aime me tenir dans la rivière Jourdain pour être un avocat pour les jeunes gens, pour les adolescents, pour ceux qui sont frêles, pour ceux qui sont faibles. J'aime le principe que Jésus pouvait dire « Il est un ami de la croix. » Un ami de la croix prend sa croix quotidiennement. Laissez-moi illustrer ça pour vous ce soir. Si une jeune personne très précieuse ne s'est pas soumise à son père pieux et sa mère, ils ont été à l'église pendant longtemps. Ils ont eu des écoles bibliques, des vacances, ils ont eu l'école du dimanche et les écritures et les guides de leurs parents. Ce n'est pas de cette façon-là que vous pensez. Ces enfants ont besoin d'un avocat, ils ont besoin de prière, puis ils ont besoin d'amour, mais leurs ennemis, ils sont ennemis de la croix. Ils ont une pensée charnelle, sont ennemis. Vous avez une femme émotionnelle qui se retire de Dieu et devient en colère. Ils se sentent toujours blessés tout le temps. Cette période de temps, elle a besoin de compassion et d'amour, mais ses émotions sont ennemies de la croix. Et la chose qu'elle a besoin plus que quoi que ce soit d'autre, c'est de tomber en amour avec la personne de Jésus-Christ quotidiennement. Vous voyez, la croix, c'est pas quelque chose que je prends pour souffrir. La croix, c'est quelque chose que je prends pour être rendu libre.
Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
C'est vraiment merveilleux d'être ici. C'est merveilleux d'être ici et de commencer ça ensemble, n'est-ce pas? J'aime vraiment ce chant-là. Est-ce que vous n'avez pas aimé ça? C'était vraiment... En tout cas, je voulais venir plus tôt puis me réjouir avec le groupe. C'était vraiment merveilleux, réellement. Alors, on va adorer Dieu et on va prier ensemble. Seigneur, on est tellement privilégiés de connaître ton nom et de te connaître toi et de savoir que tu nous connais. Même si tu connais toutes choses, tu es vraiment très fort dans notre vue. Tu es celui qui nous aide et nous tour dans nos temps de besoin. Tu es toujours là, toujours en train de nous aimer, toujours gracieux, toujours en train de nous honorer. Quel miracle que c'est ça! Merci Seigneur, merci Seigneur. Pour l'honneur que tu nous as donné à cette église, on voit ta signature, on voit ta gloire. On est tellement reconnaissant pour toi, pour cette chose-là. Merci qu'on peut être rempli par toi ce soir. Ne même pas penser à nous-mêmes ou de penser à notre nom, comme nous sommes cachés en toi, dans tes bras qui nous aiment, on peut se reposer. On t'adore. Saint, Saint, tu es merveilleux. Merci, Seigneur Jésus. On te loue, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.
Right after pastor's face-to-face
tout de suite après le service face à face de Pastor Steven, j'ai reçu une lettre vraiment très touchante d'un membre de l'équipe de la Turquie. Il avait regardé ça sur l'Internet et il dit dans sa lettre, et vraiment ça m'a parlé vraiment fortement. Il a dit, comme je regardais le service et que j'ai entendu les messages, j'ai compris que si pasteur n'avait pas élevé des pasteurs qui, à leur tour, ont élevé des pasteurs, moi, je serais en train d'aller en enfer. Et cette pensée du plan de Dieu qui continue a été vraiment dans ma pensée, à quel point Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux et nous avons vraiment un privilège de faire partie de ça. Nous savons tous que c'est vraiment un cadeau de Dieu, qu'il a ouvert nos yeux, qu'il nous a donné une nouvelle naissance, il nous a ramenés au bon endroit et il nous garde près de lui et nous sommes dans son appel. On peut dire ça ce soir. Et je pense qu'on peut une bonne image de ça dans Actes 8, quand nous avons le eunuque éthiopien qui revient de Jérusalem et il demande à Philippe de suivre son chariot. J'aime cette image-là du chariot. C'est une image du plan de Dieu réellement. Et comment le chariot n'était pas stationné, il n'attendait pas que Philippe arrive, mais les chariots allaient de l'avant, ils allaient de l'avant. Et Philippe, au verset 30, il est dit que Philippe a dû courir pour rejoindre le chariot, il a dû courir. Il aurait pu finalement très facilement manquer. C'est ça la tragédie de la vie réellement, que nous manquons les chariots. Peu importe la raison, peu importe la stupidité que quelqu'un a fait ou quelqu'un n'a pas fait. C'est comme quelquefois les enfants, vous les voyez dans les supermarchés, dans les magasins, je veux quelque chose et la mère leur dit non, je te le donne pas. Et puis les enfants se jettent par terre et ils sont là vérifiant si la mère est en train d'écouter et la mère commence à s'en aller. Et l'enfant ne croit pas que la mère va s'en aller. Mais la maman, si elle est vraiment consistante avec ce qu'elle fait, elle peut y arriver. Et tout d'un coup, l'enfant comprend, s'il ne se relève pas, il va manquer maman. Maman va être partie. Et c'est ce genre de momentum que nous avons avec le plan de Dieu aussi. qu'il y a des jeux que nous jouons et des temps qu'on se jette sur le plancher et nous pleurons pour peu importe la raison qu'on a été offensé ou qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas aimé ou qu'on ne voulait pas ou qu'on ne se met pas d'accord avec Dieu. Ça arrive tout le temps, en fait. Mais Dieu continue à aller de l'avant. Et on ne peut pas croire que Dieu va faire ça. Est-ce que nous ne sommes pas éternellement sécurs? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on comprend, ben, il faut rattraper, sinon on va être perdu ici, dans ce supermarché du monde. Puis ça, c'est un grand endroit. Mais c'est merveilleux de penser au sujet du plan de Dieu qui continue à aller de l'avant et nous faisons partie de ça. Et je crois qu'on peut vraiment s'encourager les uns les autres en ça. J'ai peint quelques tableaux. Quelques-uns d'entre vous ont visité mon exhibition. Je vous remercie. Je crois réellement que c'est de Dieu. Pas parce que c'est des images incroyables, mais juste, je crois que Dieu m'a donné ça et Dieu veut l'utiliser. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez remarqué? Ceux qui travaillent sur des ordinateurs, c'est la plupart d'entre vous, je crois. Quand vous travaillez sur un ordinateur, il faut effacer des choses quand quelque chose ne se passe pas comme il faut. Vous savez à quel point c'est facile de rejeter, d'effacer un texte. Mais quand vous effacez des images, ça prend beaucoup plus de temps. L'image prend beaucoup d'espace et c'est vraiment une réflexion de la pensée de l'homme. L'ordinateur, c'est une invention humaine, après tout. La pensée humaine fonctionne de la même façon. Une fois que vous avez l'image là, à l'intérieur, ça prend longtemps avant de se débarrasser de cette image. Hier soir, il y avait un concert à l'endroit où est-ce que j'avais mon exhibition. Et ils m'ont demandé de venir et d'être là. J'ai dit non, je vais être à l'église, je suis un homme d'église. Mais après, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de parler parce qu'il y avait à peu près 100 personnes à ce concert-là. Ils ont tous vu ces images et les images où est-ce que les gens tombent en enfer. Puis vraiment, il y en a d'autres qui sont vraiment touchantes, des images très simples. Et j'ai prié que ces images demeurent dans la pensée de ces gens-là parce qu'ils doivent travailler très fort pour devoir s'en débarrasser. Et puis, j'ai prié au sujet du message de ce soir. C'est vraiment très merveilleux de vous parler. C'est tellement facile de parler ici. Parce que c'est tellement, vous êtes tellement une famille. Et quelques-uns d'entre nous, on s'est connus depuis des années. Et on s'est transportés les uns les autres à travers des temps difficiles. On s'est encouragés les uns les autres. Et puis, on s'est écoutés les uns les autres. On a prié pour les uns les autres. Et on s'est supportés les uns les autres. Et j'ai pensé, est-ce que je devrais me défendre moi-même par rapport à ce que je fais? Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de le faire. Et j'ai pensé à la Bible et j'ai demandé, est-ce qu'il y a des artistes dans la Bible? Puis c'est sûr que oui, la réponse c'est Dieu. Depuis le tout début, dans le premier livre de la Bible, Dieu a dit, mais faisons l'homme à notre image. On va créons, on va faire quelque chose. Et puis, il a fait un point avec les 10 commandements. Ne faites aucune autre image. Vous êtes mon image. Ne faites aucune autre image et vous prosternez devant elle. Et puis, quand vous continuez dans la rédemption, dans Colossiens 1, 15, il est dit que Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Et puis, on arrive dans Éphésiens 2, 10, où il est dit que nous sommes son chef-d'œuvre. Et c'est merveilleux que Satan sait ça aussi. Et Satan utilise des images et c'est vraiment puissant à faire ceci. Et même dans les temps, dans les derniers temps, dans le livre de l'Apocalypse, dans chapitre 13, 14, quand il nous parle de la bête, la façon que la bête opère à travers une image. Il y avait une bête et son image. Et à travers cette image, il va parler aux gens. C'est vraiment très puissant. Pourquoi? Parce que les images restent avec les gens. Et notre vie, c'est une image. C'est un clip vidéo que les gens doivent regarder. Et quand les gens le voient, les gens, quelquefois, essaient d'oublier ce sujet-là, mais c'est très difficile. Notre face apparaît sur leur écran continuellement parce qu'il y a un témoignage. Il y a un témoignage. L'Église, c'est une image, c'est une belle image de Dieu. La croix, c'est une image aussi. Paul a dit aux Galates, « You, toi les Galates insensés, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je vous ai donné, je vous ai peint Jésus-Christ crucifié. Il a continué à peindre cette image de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que l'image n'était pas assez bonne pour vous? » Vous savez, la croix, c'est vraiment un symbole très intéressant. Dans le monde islamique, c'est considéré comme étant un symbole très irritant. Et les gens croient que c'est un symbole de quelque chose qui est mauvais. Quand nous travaillons en Azerbaïdjan, quand ils ont publicisé le Nouveau Testament Azerbaïdjan, il y avait une croix et ça causait vraiment un gros problème dans les églises. Parce que les gens disaient, il n'y a personne qui va lire ce livre-là parce qu'il y a une croix sur le livre. Et moi, je ne comprenais pas, mais de quoi tu parles? C'est une Bible. La croix, la Bible, souvent, ça va ensemble. Non. Les gens croient que c'est mauvais, que la croix est mauvaise. La croix est mauvaise. Ça vient du malin. C'est quelle œuvre satanique? Que le symbole de la victoire, que le symbole de notre salut, la plus belle chose, notre thème ici pour la convention, que ce serait quelque chose qui vienne du malin. Mais ce n'est pas, c'est sûr, c'est notre victoire. Et les gens voient que la vie à la croix, quand elle vient, cette vie, les gens autour tombe en amour avec la croix. Et c'est ça notre désir. Les disciples étaient avec Jésus. Ils étaient dans une foule et les gens les ont regardés et ont dit, cet homme a été avec Jésus, ils l'ont vu. Et plus tard, dans le book des Actes, ils ont vu la grâce dans ces gens. Comment vous pouvez voir la grâce dans la vie de quelqu'un? Elle devient visible. Et ça, c'est la croix. Pasteur Schaller, dans son premier message hier soir, je ne sais pas pourquoi je pense que c'était le premier message. J'ai reçu ça comme le premier ménage en interaction avec la convention. Il a parlé de la croix. C'est que, quoi que ce soit qui vient, toute douleur qui vient quand nous obéissons à la parole de Dieu. Ça, c'était sa pensée. C'était merveilleux. Quand nous avons appris d'embrasser ça et d'aimer ça. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est le chef-d'œuvre. L'Église, elle est belle. L'Église va de l'avant. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Et quand Dieu l'a touché, c'est pour toujours. Amen. Quelle belle soirée. Bonjour, Pasteur Moses. C'est bon de te voir. Si vous êtes un pasteur de Greater Grace, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous lever? Pasteur Moses, c'est bon de te voir. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Si tu es un pasteur de Greater Grace, s'il vous plaît, vous levez.
Stay standing.
Alors, demeurez debout.
Wow, look at that. Isn't that amazing?
Regardez ça. Est-ce que c'est pas merveilleux de voir ça?
Wow.
Amazing. Merveilleux.
Amen.
Qu'est-ce qu'on a entendu ce soir? Pasteur Matty. qui a partagé sur le corps et l'Esprit de Dieu ici ce soir et la marche de la foi et aussi qu'est-ce qu'on a entendu sur le clip vidéo, est-ce que c'était pas bien? On a été si bien enseigné et la croix est vraiment une partie merveilleuse et fantastique de notre vie. C'est un mystère que Dieu nous a révélé à nous. Qu'est-ce que la croix est? Et j'aimerais que vous tourniez, premièrement, dans Matthieu 16. Et on a commencé dimanche, hier, sur ce thème. Et en tant que revue, là, brièvement, au sujet du levain des Sadducéens et des pharisiens. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que le levain dans Lévitique 2:11, quand ils ont offert dans l'offrande, ils ne devaient pas mettre de levain dans l'offrande. Le pain devait être sans levain, comme des comme le pain plat. En Finlande, ils ont ce pain qui est dur et dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était ce pain-là était plusieurs années qui était là puis il était encore bon à manger. Mais le levain, c'est dans notre cœur. Le levain, la levure qui fait en sorte que les gaz dans la pâte, la farine, l'eau et les gaz à l'intérieur fait en sorte que ça se gonfle. Et c'est comme la vie pour nous. Quand nous, on est laissé à nous-mêmes, on vit dans un mensonge. Quand on est laissé à nous-mêmes, on pense à nos propres pensées et nous avons nos propres valeurs et nos propres buts. Mais quand nous sommes nés de nouveau et quand Christ est venu dans notre vie et que le Saint-Esprit est venu dans notre vie et notre pensée a été renouvelée, il n'y avait plus de levain, mais seulement la réalité. La réalité simple et merveilleuse de Dieu. Paul a dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Néanmoins, c'est moi qui vis. Mais pas moi. Alors, Paul. Allez. Il a dit, pas moi. Mais Christ vit en moi. Pas moi. Mais Christ. Mais le cœur humain met du levain dans ce passage biblique. Nous disons, je suis crucifié avec Christ et je travaille là-dessus. Je suis en train de m'améliorer. Je suis en train de grandir. Il y a un processus qui se passe. Et dans un sens, c'est sûr, nous sommes en train d'être sanctifiés. Mais la réalité est, je suis mort. Et maintenant, je vis. Mais ce n'est pas moi, c'est Christ parmi nous. Quand Jésus leur parlait, il leur a dit au verset 13, « Qui suis-je au dire des hommes? » Encore un autre mystère. Christ veut savoir de quel esprit sont les disciples. Qu'est-ce qu'ils savent au sujet du monde? Qu'est-ce que le monde est en train de dire? Ils répondirent, Jean le Baptiste, Élie, Jérémie, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est bon. C'est ça la communion que Christ recherche. C'est bon. La chair et le sang ne te l'a pas révélé, mais mon Père qui est dans les cieux t'a révélé ça. Au verset 17. Pierre a eu cette partie-là correctement, mais l'autre partie du mystère, il ne l'a pas eu correctement. Jésus a dit, au verset 21, à partir de ce moment-là, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, cette partie-là, là, le Saint-Esprit n'était plus avec Pierre. Il était allé du « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus a dit, oh là, maintenant, je suis en communion avec toi. Mais laisse-moi te dire, Pierre, qu'est-ce qui va arriver? Et Pierre avait un esprit différent. C'est comme nous. Une partie de notre chrétienté est, OK, nous savons qui Christ est. Mais l'autre partie, quand ça vient personnel, quand ça me menace, moi, quand ça devient quelque chose que je ne comprends pas tout à fait, pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça, Dieu? Pourquoi est-ce que tu ferais ça, Dieu? Je commence à argumenter avec Dieu, je ne suis pas d'accord. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Il veut nous amener dans des eaux plus profondes. Pas juste des gens qui sont touchés une fois de temps en temps par Dieu, mais des gens qui savent, qui connaissent Dieu. Et c'est ça qui est en train d'arriver avec nous. C'est merveilleux. Nous sommes en train de connaître Dieu. Nous sommes en train d'expérimenter Dieu. Nous sommes en train de le ressentir. Et habituellement, pendant plusieurs années, une longue période de temps, c'est parce que les gens ont décidé de vivre avec la croix. Mais avant qu'on aille là, il faut vraiment comprendre que Dieu ne s'attend pas à ce qu'on fasse quoi que ce soit, mais simplement de croire ce qu'il a dit. Quand il dit « Je t'aime » et que je ne ressens pas qu'il m'aime, alors la croix veut dire que je choisis de croire sans prendre en considération la façon que je me sens, et sans prendre en considération la façon que je crois. Mais j'aimerais croire ce que Dieu a dit et réaliser cette grande grâce, cette grande œuvre, ce grand mystère de la parole de Christ sur la croix. Parce qu'il y a réellement l'œuvre sur la croix, et puis il y a l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. L'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est de me montrer qu'est-ce qui est arrivé sur la croix. Quand je vois ce qui arrive sur la croix, le Saint-Esprit me montre mes privilèges. À quel point je vais être volé et que je ne réaliserai pas. À quel point il y a des choses qui ne seront pas expérimentées si je suis laissé à moi-même. Mais la parole de Dieu, comme on a entendu sur le vidéoclip, la parole et la croix sont réellement ensemble. La Bible est réellement Dieu qui parle et qui révèle, qui me révèle qui je suis. Croyez en ça. La deuxième partie de ça, c'est que Pierre, Jésus lui a dit, si un homme vient à moi, laissez-le se renier lui-même et prendre sa croix et me suivre. Ça, c'est aussi quelque chose que Pierre ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi Jésus irait là. Et deuxièmement, il ne pouvait pas comprendre comment nous devons aller là, qu'on puisse remplacer qui je suis avec ce que Dieu a dit, que je puisse croire ce que Dieu a dit s'applique finalement à qui je suis et que le Saint-Esprit ferait cela, que le Saint-Esprit me révélerait à moi qui je suis à cause de ce qu'il a fait pour que maintenant, pour moi, de vivre, ce n'est pas moi, mais c'est Christ en moi. Et que réellement, quand il y a plus qu'une personne est en train de croire ce que Dieu a dit, nous sommes en train de vivre et nous donnons nos vies les uns pour les autres, pas à cause de notre amour, un amour de soi, un amour qui recherche des paiements, d'un retour, mais au lieu, on aime avec un amour qui est divin. Et nous donnons nos vies pour les frères. si tu m'aimes à travers la croix, alors tu ne demandes jamais rien en retour. Si tu te soucies de moi ou de la personne à côté de toi, ou des gens qui ne sont même pas ici dans l'auditorium, des gens qui sont en Turquie, en Ouzbékistan ou en Ouganda, quand nous, dans nos cœurs, nous croyons et vivons avec un amour qui ne nous appartient pas, c'est ça la vie de corps. La vie de corps, c'est l'œuvre de la croix. Et la croix, c'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu non seulement pour qu'un jour plus tard, je pourrais d'une façon d'aller au ciel, mais maintenant, la croix est que ça me permet que le ciel soit ici et qu'on ait un amour qui est au-delà l'intérêt de soi. Mais la vie chrétienne, Jésus dit, qui je suis? Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est la capacité de plusieurs personnes. Quand Jésus dit, je vais aller à la croix, c'est pourquoi je vais aller à la croix, c'est pourquoi je suis venu. Mais maintenant, c'est notre intérêt personnel. Le levain qui est dans notre propre cœur et on met de l'air dans la doctrine. On la remplit. On a même des professeurs, des enseignants qui, on a des oreilles qui nous chatouillent. Puis on veut entendre ce que nous voulons entendre. On veut comprendre la Bible à notre façon. Comment on veut que l'Église soit organisée? Comment est-ce que les missions devraient fonctionner? Comment nous, on pourrait agrémenter la race humaine? Pourquoi? Parce que nous, on est tellement capables. On a des dons. On est riches. On est industrieux. Mais Jésus est tellement merveilleux. Il dit à Pierre, ta façon de penser, en grec, phronima, c'est une mentalité. Et il y a plusieurs croyants qui croient que Jésus est le Christ, mais est-ce que la mentalité de Christ est rentrée dans notre vie? Est-ce que le Saint-Esprit, la doctrine, la Bible, on a appris tellement bien ici? Et le fruit de notre présence ici aujourd'hui, ça vient des miracles de Dieu. Les gens qui ont entendu ces genres de messages-là, ils les ont entendu puis ont été offensés. Je pense qu'un des secrets de notre ministère, c'est d'offenser. Jésus a dit, béni êtes-vous si vous n'êtes pas offensé en moi, mais je vais vous offenser. Et si vous n'êtes pas offensé en moi, vous êtes béni. Mais je viens contre votre nature humaine, le levain, contre les Sadducéens et les Pharisiens, et contre le 21e siècle, où est-ce que certaines églises pensent qu'ils sont en train d'apporter une bénédiction dans le 21e siècle à cause de leur talent, de leur agent, de leur capacité. Mais nous, on est de la vieille école. On a trouvé dans Jérémie, chapitre 6, verset 6, les anciens chemins, où est-ce que Pierre a été rebuqué. Il a été exhorté. Pierre, est-ce que tu vas te jeter par terre? Et où est-ce que c'était au supermarché? Pierre, mets-toi par terre, puis fais ton tantrum, ta colère, et puis tu peux... Moi, je suis pas dans ton programme. Toi, tu peux rentrer dans mon programme, mais moi, je suis pas dans ton programme. Je veux te diriger, te guider dans quelque chose. L'homme ne devrait pas vivre par pain seulement. Les hommes ne devraient pas vivre par sa culture, ne devraient pas vivre selon son héritage, sa généalogie ou la religion des parents. Maman a dit, papa a dit, je me suis toujours rappelé, papa a dit ça, maman a dit ça. Qu'est-ce que papa ou maman a dit? Ça n'a pas d'importance à moins que qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est selon qu'est-ce que Dieu a dit, parce que Dieu a dit que l'homme ne vivra pas par pain seulement, mais par chaque parole qui vient de quoi? De la bouche de Dieu. La croix, c'est une offense au cœur humain. Rappelez-vous la croix de Jésus. Où est-ce que tous les trous sont allés? Comptez-les, la pensée. Les épines qui ont percé la pensée. Pourquoi? Parce que la pensée est poubelle. On ne peut pas comprendre les voies de Dieu. La pensée a été percée. Le cœur a été mal, plein de menteries. Les mains percées aussi. Les pieds aussi percés. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais fait un pas dans la bonne direction. Et alors, Dieu a touché nos pieds. On n'a jamais rien fait avec nos mains, à moins que ce soit par la grâce de Dieu à travers la croix. On n'a jamais pensé une pensée avec notre propre cœur, avec une motivation divine. On n'a jamais eu une bonne pensée dans notre cerveau, à moins que ce soit Dieu qui nous l'ait donné. Et il l'a donné à l'être humain, il l'a jugé. Qu'est-ce que tu penses de ça? À quel point tu es beau? À quel point tu es capable? Ta société, regarde. Ta société sophistiquée avec tes satellites qui vont autour de la Terre, il y en a des centaines, avec la technologie là, qui nous dépasse. Alors, il y a une couverture de civilité, mais en dessous de cette couverture, c'est une bête. Lisez le livre de Daniel. Une civilisation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est une bête et elle est couverte d'une couverture de civilité. C'est très fragile. Et ça va tuer et assassiner les Juifs, ça va tuer et assassiner les chrétiens, ça va tuer, assassiner et détruire un tiers de la race humaine dans une guerre nucléaire, des manipulations économiques, des politiques, de la destruction. Ça va rendre Hitler sembler être simplement un petit garçon d'école comparé à la société dans laquelle on vit aujourd'hui qui est globale et très puissante. Toi et moi, nous sommes des gens qui disent non, je ne vais pas faire partie de ça, Dieu. Moi, je crois en Dieu et appelle-moi, fais-moi sortir de ça pour que je puisse avoir quelque chose dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes pas, dans mes mains que je n'avais jamais avant. Et la raison que je l'ai reçu, c'est à cause de la croix. Pierre, je vais aller là. Tu peux pas m'arrêter. Je t'écoute pas toi. Mon Père céleste, c'est lui qui m'amène là. Le même Saint-Esprit, la même Bible qui t'a touché. Et les individus, est-ce que toi aussi tu vas me suivre? On n'a pas à le suivre. On peut s'arrêter. Tu es le Christ et tu es le Fils du Dieu vivant et tu vas être sauvé. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu dois naître de nouveau. Tu dois faire ça, mais tu ne dois pas apprendre ta croix. Ça, ce n'est pas un prérequis pour le salut. Tu n'as pas à grandir dans la foi. Tu n'as pas à aller verset par verset et vivre à la croix et obéir Dieu dans ta vie. Tu dois être né de nouveau et d'avoir la capacité et il va œuvrer en toi le désir. Mais c'est possible. Si tu veux, si les hommes vont venir après moi, si vous voyez, si vous êtes intéressé à quelque chose de plus profond, si vous voulez quelque chose qui s'agite dans votre cœur et qui vous motive, si vous voulez la vérité divine, si vous voulez storer des trésors dans les ciels, si vous voulez faire un impact dans votre vie, Dieu va le faire à travers vous. Il va le faire. Le Saint-Esprit va vous diriger vers la croix. Il n'y a rien qu'on est capable. C'est ça la beauté de tout ça. Vous essayez de vous crucifier vous-même. Vous pouvez vous coucher. Vous pouvez vous asseoir, mettre un clou à travers vos pieds. Si vous pouviez un marteau puis un clou dans une main, mais vous ne pourriez jamais clouer l'autre main. La croix, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire, mais c'est quelque chose dans laquelle on croit, qui nous met au défi dans notre vie personnelle. Dieu nous dit, est-ce que tu vas me suivre? Est-ce que tu vas sauter d'un hélicoptère? Si Dieu vous prenait dans un hélicoptère puis vous disait sauter, tu ne peux pas sauter à moitié. Cette situation-là, c'est oui ou non. C'est pas la moitié. Oui, non. Oui, non. Oui. Non. La croix. Dieu dit, suis-moi. Nous disons, comment? Et il dit, ici, qu'est-ce que j'ai à te dire? Mets-toi sous le ministère de la parole. Laisse-moi te mettre au défi dans ta propre personne. Laisse-moi te parler et te mettre au défi dans ta foi. Laisse-moi t'encourager dans ta foi. Laisse-moi te réconforter. Laisse-moi te transporter avec mes bras sous, là, se retrouvent les bras. Laisse-moi te vivifier le matin. Laisse-moi te guider le soir dans tous tes détails dans ta vie, comme Christ l'a fait. Je crois que la puissance que nous avons spirituellement, c'est dans notre ministère, c'est à cause de la croix. Je crois que vous ne pouvez pas envoyer des gens dans le monde entier avec de l'argent. Je crois que ça arrive, ça, à cause de la croix. Je crois que les gens se rassemblent ensemble, pas à cause qu'on est des gens bien, puis on aime se tenir les mains, puis de chanter des chants. Je pense qu'on se rassemble tous ensemble à cause de la croix. C'est ça qui produit la réalité de la vie qui se manifeste, qui manifeste la nature et la réalité de la personne qui est venue dans ce monde, non seulement pour qu'un jour on soit certain, mais qu'aujourd'hui on sache qu'il vit. Et il vit en nous et avec nous. Et je voudrais dire que Paul a dit dans Galates 5, 11, « Si je prêche la circoncision, l'offense de la croix est terminée. Tout le monde va m'aimer, vont me serrer la main, les juifs. Oui, tu dois être circoncis, mais si je ne prise pas la circoncision, l'offense de la croix, elle est là. Ils n'aiment pas ça. Et nous prions dans nos cœurs que ce genre de vie dans laquelle nous avons marché, qu'on a commencé, dans laquelle on croit, qu'on a expérimenté, avec laquelle on s'occupe dans nos réflexions qu'on a avec nous-mêmes, ne va jamais s'arrêter. Qu'on serait attaché à Dieu et détaché, comme on l'a dit hier soir. Qu'on soit né dans le royaume de Dieu, dans sa famille, que nous sommes nés, qu'on nous sommes attachés à Dieu et nous sommes cuits dans le pain. Et que, d'une façon merveilleuse, on est détaché. Le monde est là en train de nous offrir et nous, on tourne notre dos au monde et on adore Dieu et on le suit. Le monde est là. Et nous sommes dans ce monde, mais on est détaché du monde. Et nous avons trouvé la puissance et la grâce de ça, l'offense de ça. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, vous ne pouvez pas prendre le... Et vous retournez. Il y en a un qui a dit, je vais aller premièrement enterrer mon père et je vais te suivre. Mais Jésus a dit, tu ne peux pas prendre pour labourer ton champ là et te retourner et être prêt pour le royaume de Dieu. Une fois que tu as commencé et que tu me suis et que tu m'honores et que tu me fais confiance, je vais être ta motivation et je vais terminer avec cette pensée. Quand Élie est allé sur le mont Carmel et il a fait face à 450 faux prophètes, c'était comme un homme qui s'en allait à la croix. Et quand Élie est allé là, il ne savait pas exactement ce qui se passerait, mais il est allé là et Dieu lui a dit d'avoir deux taureaux et de les mettre sur deux autels. Il a mis les autels. Ils l'ont fait pour la moitié d'une journée, les faux prophètes. Et ça, c'est comme le monde. Ils sautaient de haut en bas. Ils s'attendaient à un miracle. Ils voulaient que quelque chose se passe. Mais quand Élie est arrivé, il l'a mis en ordre. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait un ordre divin. Et quand la parole vient dans notre cœur et qu'il y a un ordre divin dans notre cœur, dans notre pensée, vous êtes très patient, vous êtes très capable. Puis il a prié et le feu est descendu. Puis il a tué tous les faux prophètes. Puis il a dit au roi Ahab, la pluie s'en vient, va-t'en dans ton chariot et va-t'en à Jézréel. La pluie s'en vient, embarque dans ton chariot et va-t'en. La pluie est venue et Élie a couru. Et il a couru plus vite que le chariot. Ce matin, ma méditation, pourquoi est-ce qu'il a couru plus vite que le chariot, mais le Saint-Esprit m'a gardé là. Pourquoi est-ce qu'il a couru plus vite que le chariot? Et je pensais, parce que Ahab était déprimé, parce qu'il était celui qui a organisé pour les faux prophètes de rencontrer Élie. Il est celui qui a organisé la rencontre au verset 20. Il est celui que Dieu a tourné le cœur du roi. Il est comme le monde qui met ensemble quelque chose. Et voici l'homme, et voici le Christ est au milieu. Et quand le miracle arrive et que le jugement vient, il peut courir parce qu'il n'est pas déprimé. Il est vivifié. Il est la vie. Il est la résurrection et le chemin. Il est la vie, le chemin et la vérité. Il a la puissance. Mais Ahab, il s'en va dans son chariot. Peut-être qu'il est effrayé de voir Jézabel, sa femme, et de lui raconter la nouvelle. Tous les prophètes ont été tués. Peut-être qu'il a arrêté son chariot sur le côté et a commencé à penser et marcher autour un peu et penser, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi ma vie? Où sont les prophètes? Qu'est-ce qui est arrivé? Qui est cet homme, Élie? Et je ressens un peu cette même chose qui est donnée à l'Église. L'Église a l'autorité de courir et de ne pas s'épuiser, de penser et d'aller au-delà que simplement la surface. Nous sommes un peuple très privilégié de penser ces pensées-là et de comprendre que nous sommes ceux qui sont en charge. Non, le monde dit, vous n'êtes pas en contrôle. Et nous regardons le monde, ils sont horrifiés parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en Turquie, l'Esprit de Dieu en Asie centrale, l'Esprit de Dieu en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, et dans votre famille, dans votre maison et dans votre cœur. C'est puissant. C'est l'Esprit de Dieu. Et nous courons. Et nous dépassons Ahab. Il est là, le petit enfant là, avec la colère, là, couché par terre, frustré, en colère. Il dit, qu'est-ce qui vient de se passer aux 450 prophètes? Qu'est-ce qui s'est passé avec le système de ce monde, avec les puissances qui sont dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé avec les désirs? Qu'est-ce qui s'est passé avec les tromperies et les mensonges? Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous courons et nous dépassons. Oh non! Il y a un bombe en Gilead. Il y a une croix au calvaire. Il y a un sauveur qui a ressuscité. Il y a le Saint-Esprit qui est présent. Il y a une Bible qui nous parle. Il y a un but qui est divin. Il y a un appel qui est merveilleux. Il y a une prière qui bouge des montagnes. Il y a une communion dans une famille qui est divine. Nous le chérissons et nous disons, où est-ce que je peux trouver ça? Où est-ce que ça se trouve? Où est le repos qui ne se termine jamais? Où est la vie qui ne se termine jamais? Où est la sagesse qui continuellement vient? Où est la relation qui ne meurt jamais? Où est la puissance que Dieu nous a promis? Et il dit, regardez à mon Fils, non seulement est-il le sauveur du monde, mais il est sur la croix pour que maintenant, toi aussi, tu peux avoir une croix. Sois offensé. Laisse mes paroles te parler. Crois-moi, suis-moi, fais-moi confiance. Et tu vas me trouver, moi. Je te le garantis. Et vous allez courir. Et vous n'allez pas vous fatiguer. Vous allez marcher, ne pas... vous allez vous envoler comme sur des ailes d'aigle. Et vous allez avoir 50 ans. Vous allez avoir 365 ans. Et Enoch était parti. Le joug est facile et le fardeau est léger. Mais j'ai dit à Ahab, va-t'en dans ton chariot et vas-y, parce que sinon la pluie va tomber sur toi au verset 24 ou 34. Il était tellement doux envers lui. Il n'était pas en colère contre lui. Il était vraiment très gentil envers lui parce qu'il savait qu'il avait plein de troubles dans son cœur. Sans aucune réponse. Il était pour être avec un fardeau de ses propres troubles. Il y a tellement de gens qui sont comme ça parce qu'ils n'ont pas de croix dans leur vie. S'il n'y a pas de douleur à la croix, alors il n'y aura pas de gain. Si on perd notre vie, on va la gagner. Et cette semaine, je suis sûre, qu'on va être réconforté pour comprendre la grâce qui rend ça possible dans l'œuvre accomplie qu'il nous a donnée à nous. Amen. Priez avec moi. Dites simplement, si quelqu'un ici ce soir ou sur l'Internet, dites « Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Lave mon péché. Donne-moi ce cadeau de la vie éternelle, je te prie. Je mets ma confiance en toi ce soir, par la foi, sur l'Internet. Dites ceci, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je t'accepte personnellement. Viens dans ma vie. Sois mon sauveur. Et puis, Père, on te prie que tu vas bénir notre méditation à travers cette semaine. Merci pour chacun qui est venu par la foi. Plusieurs ont voyagé de longues distances. Nous sommes ton peuple oint. On se réjouit dans le grand cadeau de ton Fils. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu bénit chaque rap, chaque conversation, chaque communion, tout ce qu'on fait, toutes les choses qu'on va toucher. Père, toutes les réunions de prière, tout ce qu'on fait, tous les hamburgers qu'on va manger, toutes les conversations, tous les enfants dans la nursery, tous les mamans, les papas, les églises à la maison, on laisse toutes nos choses devant toi et on veut recevoir des instructions divines, des enseignements divins, parce qu'on a trouvé quelque chose que le monde n'a pas, qui nous a donné quelque chose, qui a élargi nos côtes et nos cœurs et qui nous a donné une course à courir et nous dépassons Ahab. Pourquoi? Parce qu'il est perdu. Même s'il a un chariot, il est perdu. Il est vide, il est blessé, il a mal, il est vide, il n'a rien. Oui, nous avons trouvé ce trésor. Merci. Amen.